très, très bref, 20 minutes, enfin juste, pour, comme une espèce d'appendice à ce qui a été dit. C'est à propos de la question du rapport. Du rapport entre la violence et Dieu lui-même, parce qu'après tout, dans la pensée musulmane, Dieu assume clairement lui aussi la violence, comme dans la Bible hébraïque. Bon, la violence est bien sûr le fait des hommes, mais elle est aussi intégralement aussi le fait de Dieu qui a voulu avaliser ou parfois encourager certaines guerres. À la différence de la Bible hébraïque, il n'existe pas en islam l'équivalent de Job. Dans le livre de Job, Job l'innocent dit « Pourquoi tu me fais souffrir? Pourquoi est-ce que toi-même tu n'appliques pas la même morale que tu nous imposes ?» Et donc il y a ce cri de souffrance devant ce qui a, et de protestation de ce qui apparaît devant une sorte d'injustice, devant la violence faite aux hommes. En islam, la question ne se pose pas, c'est-à-dire que la souffrance humaine n'est pas une question théologique. Elle est en quelque sorte résolue d'avance, dans la mesure où il est dit que la souffrance, ben là, c'est une épreuve. Donc, toutes les souffrances physiques ou autres qui peuvent être infligées aux hommes, c'est des épreuves, et Job, cité dans le Coran, fait preuve de patience. Donc, là, en quelque sorte, la vertu recommandée, c'est la patience. Et les mystiques adorent Dieu précisément pour reprendre l'expression d'un grand soufi du 9e siècle, dans l'union des contraires, c'est-à-dire que Dieu est adoré en tant que miséricordieux, mais il est aussi adoré simultanément en tant que vengeur, rigoureux. Donc les deux doivent être maintenus de force. Alors maintenant, comment trouver une interprétation, disons, de la violence dans le jihad, dans le grand jihad, dans le jihad personnel? Je voudrais juste pointer la question du mal dans ce grand jihad. Pourquoi est-ce qu'on a à combattre avec tellement d'âpreté à l'intérieur de soi-même, comme le rappelait Christian Janvier ce matin à propos de Mola Salra. Et ici, je voudrais simplement dire quelques mots sur le principal fauteur de violence, à savoir Satan. L'univers est réglé de façon tout à fait harmonieuse, les astres tournent comme il faut, les animaux se conduisent tout à fait dans l'ordre divin, les minéraux aussi, tout est harmonieux, mais il y a la transgression, et la première transgression qui a été commise est celle de Satan, dont le rôle dans la pensée et la spiritualité islamique est à la fois considérable et marginal. Considérable parce que les hommes sont harcelés par Satan depuis leur origine jusqu'à la fin, et en même temps marginal, parce que finalement, c'est Dieu qui est tout-puissant, et c'est Dieu qui décide de tout. Quelques mots juste de rappel, Satan a été parmi les anges, c'est une figure très équivoque, le Coran ne dit pas clairement s'il était un ange, un verset dit qu'il était un djinn, mais en tout cas, tout djinn qu'il était, il était parmi les anges. Dieu crée Adam, annonce qu'il va créer Adam, et les anges protestent en disant, mais nous t'adorons dans toute pureté, nous te sanctifions, et tu vas créer quelqu'un qui va corrompre la terre et qui va verser le sang. Et Dieu dit, je sais ce que vous ne savez pas, il crée Adam d'argile, et il demande, après, devant cette créature créée d'argile, aux anges de se prosterner devant lui. Tous les anges s'exécutent, sauf Satan. Et donc, Satan pose là la première transgression, et c'est en quelque sorte le point de départ, l'image archétypale de la transgression dans le langage coranique et plus tard dans la spiritualité musulmane en général. Satan est maudit et il dit d'accord, il se soumet à cette malédiction, mais il dit « mais laisse-moi tenter les hommes ». Sous-entendu, tu nous demandes de nous prosterner devant cet être, Adam, tu vas voir qu'en fait il n'est pas du tout digne d'adoration et donc Satan a l'autorisation jusqu'à la fin du monde de pousser les hommes, eux aussi, à la transgression. Et il faut dire qu'il y réussit bien, puisque peu de temps après, dans le paradis, il réussit à faire chuter les hommes d'une façon complètement équivoque, justement. On est dans l'équivoque total, puisqu'il dit à Adam et Ève, devant l'arbre dont il est interdit de manger du fruit, « Votre Seigneur vous a interdit de manger de cet arbre pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortel. » Ce qui est très équivoque, puisque pourquoi Adam voulait-il devenir un ange alors que précisément les anges ont dû se prosterner devant lui? Pourquoi voulait-il être immortel alors qu'apparemment la question de la mortalité ne s'est jamais posée? L'équivoque de Satan, d'ailleurs, c'est là où ça intéresse quand même la pensée mystique, c'est non seulement que, on ne sait pas très bien, ce qui l'a poussé fondamentalement, on va voir les réponses données, à transgresser, mais aussi pourquoi Adam et Ève, à peine avoir transgressé, eux, ont été pardonnés, alors que Iblis, Satan lui-même, ne sera jamais pardonné, il est maudit jusqu'à la fin de l'éternité. Donc, quelle est la différence entre les deux transgressions? Je vous épargne, bien sûr, les très longues exégèses qui ont été développées depuis de très longs siècles à ce sujet-là, pour rappeler donc que Satan intervient continuellement dans ce qu'on a appelé le grand jihad, à savoir qu'il harcèle les hommes en leur insufflant de mauvaises pensées et en étant même présent à l'intérieur d'eux-mêmes. La tradition musulmane rapporte que le prophète Mohammed a affirmé que chaque croyant avait près de lui un ange qui le pousse au bien et un Satan qui le pousse à pécher. Et l'entourage demande « Même toi, envoyé de Dieu ?» Et il répondit à ses compagnons « Même moi, mais Dieu m'a aidé contre ce Satan personnel. » Et il s'est aslama, il s'est converti à l'islam, il s'est soumis. Et donc, il y a près de nous un démon, un Satan, qui cherche à nous faire transgresser exactement comme il l'a fait pour Adam et Ève. Et non seulement il est près de nous, mais un autre hadith, bien ajouté, que Satan circule en vous comme le sang dans vos veines. Donc, Satan est à l'intérieur de nous. Donc, l'âme pécheresse, en quelque sorte, est comme imprégnée d'une présence satanique, ce qui donne une image pessimiste, bien sûr, de l'être humain, mais en même temps laisse à comprendre l'âpreté de cette guerre, ce jihad, cette guerre sans merci, auquel Christian Jouret faisait allusion ce matin. Alors, je vais juste très rapidement jeter quelques idées qui reflètent l'opinion d'un des seuls penseurs et mystiques qui posait le problème de face, et qui est Hallaj, le grand mystique Hallaj, qui a été jugé et exécuté en 922, dont l'œuvre, qui devait être assez importante, a été censurée et détruite. Il nous en reste quelques bribes. Mais dans ces quelques bribes, il y a quand même le livre des Tawassin qui contient des méditations sur ce rôle de Satan. Rôle de Satan, bien sûr, qui est à mettre en rapport avec le destin de Hallaj lui-même, qui a été accusé d'avoir contrevenu à la religion et donc a été condamné et exclu de la communauté musulmane, détruit physiquement. Alors, si on comprend bien l'argumentation de Hallaj, les arguments sont les suivants. Il essaie de montrer, de démonter pourquoi Satan a transgressé. Le Coran dit simplement « Satan s'est enorgueilli ». Enfin, l'orgueil, il ne vient pas tout seul. Dans cet orgueil, il a quand même une origine. Et pour Hallaj, première explication, qu'il donne de façon très assez un peu éparpillée. Satan était un ange et un familier de Dieu depuis la prééternité. C'était un vrai croyant et il savait mieux que personne quels étaient les desseins de Dieu et la nature de ses décrets. En fait, Satan avait comme une idée assez claire, pour lui en tout cas, de la prédestination. Dieu nous destine à une vie, une destination précise. Et il savait que lui-même avait été créé de feu et que donc il était destiné au feu. Et donc, ça, il avait une sorte de certitude concernant sa propre damnation, justifiée ou non. Et donc, il se disait, puisque de toute façon, mon destin est arrêté, je préfère à tout le moins rester fidèle à Dieu, c'est-à-dire rester, me prosterner devant Dieu seul et pas me prosterner devant un être créé. De cette façon, en quelque sorte, ma damnation aura un sens, mais un sens noble. Cette idée est renforcée par un dialogue imaginaire entre Moïse qui descend du mont Sinaï et qui rencontre Satan. Moïse reproche à Satan d'avoir désobéi à Dieu. Satan reproche à Moïse d'avoir demandé à regarder Dieu, ce qui lui a été, ce qui était aussi quelque chose d'un peu trop audacieux. Et puis il va plus loin, la discussion, je veux dire, s'envenime. Et Satan dit, moi, si j'avais été à ta place, j'aurais continué à regarder Dieu, même quoi qu'il m'en ait coûté. Je n'ai pas voulu me prosterner devant Adam, parce que c'était une épreuve pour évaluer ma fidélité. Dieu m'a mis à l'épreuve, il a vu que moi j'étais le plus fidèle parmi les anges. Moïse lui fait remarquer, oui, mais tu es devenu tout noir. Satan, qui était un ange, est devenu complètement déformé. Il a été complètement transformé. Et sans se laisser démonter, Satan lui répond, oui, mais ça, c'est mon aspect extérieur, exotérique. Mais mon aspect intérieur, lui, il est fait de pure fidélité. Citation d'un vers, mon blasphème, donc c'est Satan qui parle, mon blasphème, c'est proclamer que toi seul es saint, ma raison est folie pour toi, qui est Adam hormis toi, et qui est Iblis, Satan, qui est Satan, pour vous séparer. Donc, Hallage a visiblement une certaine admiration devant l'énergie, le stoïcisme de Satan, et en tout cas, il y a un parallèle entre lui et sa position de lui, Hallage, de toujours tenir bon et proclamer ce qu'il pensait être vrai, quelle que soit l'adversité et les reproches qu'on lui faisait. Alors, il y a un grand commentateur de Hallage, un admirateur de Hallage, Fosbran Barclay de Shiraz, qui a vécu principalement au XIIe siècle, qui commente cela et qui cherche à dire, mais en fait, Satan avait réellement péché, c'était vraiment un pécheur, il n'a pas compris que le dessein de Dieu, c'était de cacher son secret divin dans le corps d'Adam, que c'est l'être humain qui est en quelque sorte le réceptacle de la divinité. En fait, Hallage n'a jamais affirmé que Satan avait raison. Au contraire, il confirme qu'il s'est bel et bien trompé, qu'il n'a pas compris le secret de l'être humain, que le but de la création d'Adam, il n'y a pas de séparation entre créateur et créature. Le fait que de rendre en quelque sorte, c'était de rendre le créateur présent à l'intérieur même de l'être humain. Visiblement, Fosbran a eu un peu peur de l'audace de Hallage, alors que Hallage aboutissait à une conclusion qui effectivement était très sensible, à savoir que la transgression, notamment celle de la transgression humaine, est absolument nécessaire pour parvenir à la vérité et pour rejoindre Dieu. Cette question ne pouvait pas être dit ouvertement. Enfin, deuxième point, le livre des Tawassim représente Satan comme le véritable amant de Dieu, celui qui refuse obstinément de se prosterner devant un autre que Dieu par amour, et de subir le pire châtiment possible par amour. Pour Satan, la damnation est encore un bonheur, car elle émane d'une intention de Dieu pour lui. Dieu ne l'oubliera jamais, même si c'est dans une pensée de damnation, Dieu pensera à lui pour l'éternité. Satan proclame devant Dieu, « Nul exil ne m'éloigne de toi, après que j'ai compris qu'éloignement et proximité ne font qu'un, même si je suis rejeté loin de toi, mon exil et mon compagnon, en quoi serait-il exil alors que l'amour est présent ? À toi la louange pour avoir concédé le succès à un serviteur sincère, c'est-à-dire Satan, qui ne s'est prosterné devant nul autre que toi. Et de fait, pour Halage, là, sur ce point-là, l'attitude de Satan est exemplaire, car elle est un signe que l'amour pour l'amour authentique, il n'y a aucune récompense qui est attendue, aucune consolation de la part de l'ennemi. On trouve ici, retrouve ici l'attitude de Halage, du pur amour, d'un désir absolument essentiel qui se meut par lui-même sans attendre aucune autre récompense morale ou physique. Et enfin, troisième et dernier point, la réhabilitation de Satan, Iblis, est affirmée aussi par la nécessité qu'il faut qu'il y ait un mauvais serviteur. C'est-à-dire que Iblis, au fond, accepte la damnation, il accepte de tenter les hommes jusqu'à la fin, parce que, au fond, il oblige les hommes à prendre des décisions libres. Si les hommes n'étaient pas tentés, ils réagiraient sans doute comme les animaux, tandis qu'en étant à chaque fois poussés à la transgression, Iblis oblige les hommes à des actes de liberté, à des actes de choix, et plus que cela même, ce sera développé par un autre grand mystique, Hamadani, Iblis accepte, Satan accepte de jouer le rôle de la main gauche de Dieu. Dieu a une main droite, il déverse ses bienfaits sur les hommes. Il a aussi une main gauche qui déverse les épreuves, les souffrances, la rigueur. Eh bien, Satan a accepté pleinement de jouer ce rôle-là, qui est bien sûr un rôle extrêmement ingrat, mais qui a quelque chose de complètement grandiose. Là, j'explique, pour qu'on puisse vraiment reconnaître le blanc, il faut qu'il y ait du noir qui le fasse voir. Il faut donc, si on veut connaître la vérité, il faut la transgression, il faut l'erreur et il faut le mal. Et donc, ça rejoint l'attitude aussi de Halage, qui avait une prédication qui était extrêmement audacieuse en ce sens-là. C'est-à-dire, il était très musulman, il se sentait très musulman, il était très pratiquant, mais il avait une façon de dire qu'il fallait absolument dépasser la loi si on voulait rencontrer le vrai Dieu, la présence de Dieu, et ce qui était bien sûr très dangereux pour celui comme Halage qui s'y adonne. Il y a un vers attribué à Halage, vrai ou faux, en tout cas lui attribué. Dieu m'a jeté dans l'océan en me disant « prends garde, à ne pas te mouiller ». Je vais terminer là, donc on aura peut-être le temps d'échanger un petit peu. Je ne sais pas si Christian Jambé, qui connaît très bien le sujet, voudra réagir. Mais en tout cas, donc, je terminerai avec cette idée-là qu'il y a une tradition qui sera reprise par Ibn Arabi, disant que Dieu dirige le monde avec deux mains, une main gauche, deux mains en quelque sorte, et au total, au final, les deux mains sont une main droite, c'est-à-dire la main de gauche, la main de rigueur, la main de souffrance, et malgré tout aussi une main de bienveillance, car finalement, au final, tout est miséricorde, finalement, comme dirait la Sainte Thérèse, tout est grâce, finalement. Voilà.